CQFD.
On va parler maintenant d'une des opérations chirurgicales les plus pratiquées en orthopédie, soit la correction d'un hallux valgus. Alors, dans le langage courant, Stéphane Delectro, un hallux valgus, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est ce qu'on appelle communément un oignon, une bosse, une protubérance à la base du gros orteil, au niveau du premier métatarse. Une déformation qui peut s'avérer très douloureuse et invalidante, mais qui se traite très bien aujourd'hui, notamment par la chirurgie.
Alors, on va voir ça grâce à vous en salle d'opération directement, grâce à votre reportage. Mais d'abord, je vous propose qu'on fasse un peu plus connaissance avec hallux valgus, aussi en compagnie de Xavier Crevoisier. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes responsable du centre du pied du CHUV. Alors cet oignon, cet hallux valgus, comment est-ce qu'il apparaît?
Alors on distingue deux grandes voies de formation d'hallux valgus. On distingue l'hallux valgus juvénile de l'hallux valgus acquis. Dans l'hallux valgus juvénile, c'est en quelque sorte, si vous voulez, une croissance qui se fait pas tout à fait bien avec petit à petit la déviation du gros orteil vers les petits orteils et puis la protubérance, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Delectro, qui s'installe. Et puis celle-ci, elle touche, les chercheurs sont pas tout à fait d'accord, mais elle touche à peu près 20 à 30% de la population. Et puis il y a l'autre partie des hallux valgus, bien sûr. Et puis il y a l'autre partie des hallux valgus, qui est l'hallux valgus acquis. Alors celui-là, il apparaît au cours de la vie, en général aussi avec le vieillissement de la personne. Et il part en fait d'une base saine pour arriver vers cette déformation que vous avez décrite tout à l'heure.
Mais dans les deux cas, il y a un développement progressif?
Et dans les deux cas, il y a un développement progressif qui peut être rapide ou lent. En général, il est lent, c'est très très lent. Et puis, ça évolue petit à petit vers des non seulement de la déformation, donc des troubles morphotypiques, mais aussi vers un déficit fonctionnel.
Et ça touche, dans les deux cas aussi, essentiellement des femmes.
Et ça touche essentiellement des femmes. On lit souvent que 9 femmes sont touchées pour un homme. C'est des chiffres qui sont surfaits parce qu'ils sont tirés en fait des études chirurgicales, de la population chirurgicale. En réalité, une étude très récente a montré qu'il y avait 2 facteurs qui influençaient les valgus, c'était l'âge et puis le sexe. Et dans le sexe, alors en fait, les femmes, on peut dire qu'environ 30% des femmes sont... la prévalence est de 30% des femmes à peu près dans la population et seulement 13% chez les hommes. Mais vous voyez que ça fait seulement 2 à 3 fois plus finalement.
Ouais. Et c'est souvent héréditaire de mère en fille?
Oui. Sans qu'on ait pu mettre en évidence une séquence génomique, en tout cas à ma connaissance, il y a une hérédité qui est clairement présente. En tout cas, quand quelqu'un souffre d'un hallux valgus, il n'est pas rare de découvrir qu'il existe beaucoup de personnes dans sa famille qui en sont atteintes, ou dans ses sœurs, ou dans ses grands-parents, etc.
Sophie?
Le genre est en cause, mais est-ce que c'est le genre à cause des chaussures, par exemple, serrées?
La grande question.
La grande question que tout le monde se pose.
C'est la grande question, c'est une très bonne question, une question qu'on nous pose aussi souvent. Donc les chaussures, elles sont un facteur aggravant, seulement un facteur aggravant. Mais pour que ce facteur aggravant puisse s'exercer, il faut qu'il y ait une prédisposition congénitale. Donc ça veut dire que finalement, on a pu voir récemment dans une étude que chez les femmes de plus de 50 ans qui présentent un hallux valgus, parmi celles-ci, la majorité avait porté des chaussures étroites et à talons durant sa jeunesse. Mais on peut porter donc des chaussures étroites et à talons si on ne n'a pas de prédisposition pour développer un hallux valgus, bon, on ne va pas le développer.
Est-ce qu'il se développe sur les deux pieds ou seulement sur un?
Très souvent, il se développe sur les deux pieds. Très souvent, ça veut dire dans 90% des cas.
Ah ouais, très souvent.
Mais il ne se développe pas forcément en même temps et puis surtout pas non plus avec la même sévérité.
Alors, on a parlé des chaussures comme facteur aggravant. Il y a d'autres facteurs aggravants?
Il y a d'autres facteurs aggravants, il y a des facteurs qui sont liés au morphotype et puis qui sont des facteurs intrinsèques et puis il y a des facteurs extrinsèques. Donc dans les facteurs intrinsèques, le morphotype, typiquement vous avez déjà entendu parler du pied égyptien, c'est là où le premier orteil est plus long que les autres. On dit que ceci est un facteur de risque pour développer un hallux valgus. Ça c'est un facteur intrinsèque typique. D'autres facteurs intrinsèques, ça peut être des maladies du tissu collagène, la polyarthrite rhumatoïde. Tout ça, ce sont des facteurs intrinsèques. Puis dans les facteurs extrinsèques, on a mis en cause les chaussures, pour autant qu'il y ait une prédisposition. Mais on peut aussi mettre en cause des sollicitations très très importantes de la première articulation métatarso-phalangienne lors de la pratique de sport, avec des micro-traumatismes répétés, voire même une fois un traumatisme majeur qui peut engendrer un hallux valgus.
Est-ce qu'il y a des pathologies, d'autres pathologies associées? C'est-à-dire quand on a un hallux valgus, on a aussi autre chose?
Oui, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, l'hallux valgus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il crée un déficit fonctionnel. Le premier orteil, il est extrêmement important pour notre propulsion. Dès le moment où il dévie, en fait, cette fonction propulsive, elle va diminuer. Et puis si elle diminue, il faut qu'elle soit prise en charge par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça va être la partie latérale du pied. La partie latérale du pied n'est pas habituée à avoir tant de sollicitations. Et on développe ce qu'on appelle des métatarsalgies, donc des douleurs sous les petites têtes métatarsiennes. Et le corps va vouloir se défendre la contre avec une crispation musculo-tendineuse qui va former des orteils en griffes et puis différentes petites déformations des orteils adjacents.
Ça peut être fortement invalidant.
Ça peut être fortement invalidant.
Alors, pour venir à bout d'un hallux valgus, il y a la chirurgie, on va y venir. Est-ce qu'il y a autre chose avant la chirurgie ?
Oui, on peut dire qu'on ne va pas pouvoir venir à bout d'un hallux valgus sans la chirurgie. Néanmoins, on va pouvoir le soulager par différents moyens. Le premier moyen, c'est le bon sens. Si on a la possibilité de porter des chaussures plus confortables, il faut porter des chaussures plus confortables et on sera moins symptomatique. Une autre, c'est pas possible pour tout le monde, en fonction de la profession. On pense à des ouvriers sur des chantiers, on pense à des femmes d'affaires qui doivent être élégantes, etc. Et puis, l'autre moyen de soulager, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des orthèses, comme par exemple des supports plantaires, qui auront surtout pour vertu de soulager un peu la pression sous les têtes métatarsiennes. En revanche, il faut faire très attention à la publicité qui nous vend des attelles redressantes pour l'hallux valgus qu'on peut porter durant la nuit. Une fois qu'on a atteint l'âge adulte, ça peut peut-être exercer un effet de soulagement, mais certainement pas un effet correcteur.
Donc, en d'autres termes, Xavier Crevoisier, même si on intervient par des moyens autres que la chirurgie, c'est impossible de l'éviter.
C'est impossible de l'éviter, c'est irréversible.
Donc, il vaut mieux, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on peut donner aux auditeurs, ou en tout cas, dès qu'on souffre, il vaut mieux intervenir rapidement et avec la chirurgie ?
Non, on ne peut pas non plus dire ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucune évidence dans la littérature pour parler en faveur d'une chirurgie précoce et ainsi avoir un meilleur résultat fonctionnel à long terme. Donc, il faut faire très attention. Il faut aussi savoir que la chirurgie, c'est de la chirurgie. Ça veut dire qu'on ne peut pas la garantir toujours à 100%. Et puis, je suis bien placé pour le savoir, puisque à l'hôpital universitaire, on fait beaucoup de chirurgies de reprise. Et puis, il ne se passe pas une semaine sans que je voie une femme qui me dise « Oh, je regrette d'avoir fait opérer mon hallux valgus, j'avais pas si mal, et maintenant j'ai beaucoup plus mal, je suis beaucoup plus raide. » Donc, il faut s'en méfier.
Vous parlez de chirurgie. Bah, évidemment, la chirurgie, comme tous les autres domaines de la médecine, a fait d'énormes progrès ces dernières années. J'imagine qu'on n'opère plus la même chose qu'on opérait il y a, je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça.
Oui, vous avez raison. Les techniques, elles ont peut-être été développées il y a très longtemps. Et puis on peut dire que dans les 20 dernières années, il n'y a pas vraiment eu de révolution du point de vue de la technique chirurgicale ou des types d'ostéotomie qu'on peut pratiquer. Par contre, on a fait certainement des progrès dans les méthodes de fixation, dans l'utilisation des différents matériaux. On a fait aussi beaucoup de progrès dans l'anesthésie. Ça, c'est aussi une chose qui est très importante pour la période père et post-opératoire.
Alors, il y a deux types de chirurgie, la chirurgie dite par abord ouvert et la chirurgie percutanée ou mini-invasive. On va commencer peut-être par la chirurgie ouverte, comme son nom l'indique, on y va avec un scalpel, on ouvre ça assez largement.
Oui, alors c'est juste, vous avez bien fait de souligner qu'il s'agit en fait de deux abords. On va pouvoir faire parfois la même technique de manière ouverte ou de manière percutanée. Et c'est surtout une question d'abord. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, on ouvre, ça veut dire qu'on ouvre avec un scalpel, on ouvre sur une petite cicatrice de 4 à 5 cm à la face interne du pied, à l'endroit de la protubérance. On va ouvrir la peau, ensuite on ouvrira la capsule et puis on atteindra ensuite l'articulation avec sa déformation qu'on aura sous notre contrôle visuel direct.
Voilà, ça c'est un des avantages, on voit vraiment ce qu'on fait, quoi.
On voit vraiment ce qu'on fait et puis on est aussi capable d'ajuster, ou de s'adapter à toutes les variantes osseuses ou les variantes articulaires de manière très très fine pour obtenir après une correction qui soit la plus précise possible.
L'inconvénient, c'est quoi en termes de cicatrisation ? C'est peut-être un peu plus long ?
La cicatrisation est un petit peu plus longue, mais en général, c'est pas un endroit du corps qui cicatrise mal. Et puis, il n'est pas rare qu'après une année, deux ans, on ne voit même plus la cicatrice.
Ça se fait généralement en ambulatoire ?
Non, pas généralement, mais on peut le faire en ambulatoire comme on peut le faire en stationnaire. C'est pas tellement en fait la chirurgie qui va décider ça, c'est plutôt le contexte du patient. En fait, il faut adapter un certain bon sens, un patient qui a une faible mobilité, qui a un très mauvais entourage familial ou des conditions d'hygiène sur son lieu d'habitation qui sont mauvaises, il va plus volontiers être opéré en stationnaire qu'un autre patient.
Quand vous avez ouvert, qu'est-ce que vous faites ? Vous reniez l'os, vous le replacez, qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Vous faites bien de poser cette question, parce qu'on nous la pose aussi souvent, on ne rogne pas l'os. En fait, ce qu'on fait, on va faire une ostéotomie, ça veut dire qu'on va couper l'os, on va couper l'os du premier métatarsien, ce qui permettra à la tête du premier métatarsien, qui est protubérante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être déplacée et remise à sa place originale, ou à sa bonne place. Ensuite, elle sera fixée à cet endroit par un implant, en général c'est une petite vis qui est entièrement intégrée dans l'os, et puis ensuite on pourra refermer. Mais donc on a déplacé, remis la tête à sa place plutôt que rogner ce qui dépasse.
On évoquait une deuxième technique tout à l'heure, la chirurgie percutanée. Alors là, quelle est cette technique et qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les avantages et les inconvénients?
Dans la chirurgie percutanée, l'ouverture est, comme son nom l'indique, beaucoup plus petite, c'est de l'ordre du millimètre. Et puis on va travailler, cette fois-ci, pas sous contrôle visuel direct, mais sous contrôle visuel scopique. Ça veut dire qu'on utilise des rayons en péropératoire pour pouvoir visualiser ce qui se passe à l'intérieur. Et on va couper l'os, non pas avec une scie large, mais avec une petite fraise. Et on va le déplacer de la même manière qu'on le déplace avec la chirurgie ouverte.
Alors, vous venez déjà de nous emmener dans une salle d'opération. On va vraiment y aller maintenant avec vous, Stéphane Delettreau. Alors, c'est justement une chirurgie percutanée du hallux valgus que vous nous proposez.
Voilà, je vous emmène à la clinique de Genolier avec le docteur Mouchine Elazid. Il est chirurgien orthopédiste et traumatologue.
On va commencer par une antalgie locale qui servira pour le post-opératoire, qui permettra de faciliter que les gens marchent tout de suite après l'opération pour pouvoir entrer. Voilà, le produit est injecté. Là, on prend un bistouri qu'on appelle le biver, qui a une petite lame très très fine qui permet au fait de détacher le muscle adducteur de l'hallux sans faire une réelle incision. Voilà, c'est fait. Et puis après, à l'aide d'une fraise de 2 mm de diamètre rotative, on va enlever cette excroissance osseuse qui est sur l'hallux, sur le premier métatarsien. Voilà, nous avons une pédale ici qui permet de faire tourner cette fraise. J'ai un collègue avec moi qui, en même temps, arrose. Sinon, la fraise va chauffer et risque de brûler la peau. Donc, en présent comme ça, ça permet de garder la fraise froide. Une fois qu'on a fraisé, eh bien, on va extraire cette pâte osseuse avec des mouvements de pression manuelle. Voilà, comme on voit ici. Après, on palpe s'il n'y a pas encore de l'os à enlever, il n'y a plus. Puis après, on fait un lavage. On finit avec un lavage avec une seringue et une aiguille boutonnée qui va sortir tout ce qui reste comme débris osseux à l'intérieur. Voilà.
Vous faites tout ça à l'aveugle, en fait?
Exactement. Exactement, c'est fait vraiment, je dirais pas à l'aveugle, mais à la palpation. Donc on travaille uniquement avec la palpation avec les doigts. Le seul contrôle qu'on fait en radio, c'est une fois qu'on a fini pour s'assurer que l'implant qu'on a mis sur place est à la bonne place. Autrement, tout le reste est fait vraiment à la palpation. Après, on reprend le même trou avec lequel on a enlevé la bosse pour faire cette ostéotomie. Ça veut dire qu'on va scier l'os, on va le casser. Voilà. Bien entendu, il y a des repères pour faire ça. Et puis, on ne le fait pas toujours de la même façon selon chaque patient. Alors, maintenant, c'est déjà fait. Voilà, ça bouge. Et je prends la fameuse broche que j'introduis par le même trou qui va longer l'orteil. En même temps, je fais un exercice de dérotation. L'orteil qui était tourné vers l'intérieur, je le tourne vers l'extérieur pour que l'angle regarde en haut, ce qui permet d'améliorer l'orientation de l'orteil. Ça, ce qu'on appelle la poignée américaine, qui va tenir la broche. Alors, avec un petit instrument, on va séparer les deux fragments du premier méta pour pouvoir pousser la broche à l'intérieur. Voilà. La broche rentre. Et avec des petits coups de marteau, tout en gardant l'orientation de l'orteil, on rentre cette broche. Voilà, on la plante au fond. On complète la correction en fait avec une ostéotomie, ça veut dire qu'on va scier de nouveau, mais cette fois-ci la base de la phalange du premier orteil, la phalange proximale. Voilà, c'est fait. Et c'est là qu'on fait un contrôle radiologique. Ce n'est pas obligatoire, mais comme ça, on est sûr que la broche est en place. Alors, ceci fait, maintenant on va tordre la broche. Qui reste dehors de la broche, on va le tordre, le plier, comme ça. Mon collègue va couper le surplus. Voilà. Et l'opération est terminée. Donc là, il n'y a plus que le pansement. Et la personne va pouvoir se lever d'ici à peu près 1 heure, 2 heures pour marcher dessus.
Peut-être une toute dernière question, docteur Mouchine. Cette chirurgie percutanée, qu'est-ce qu'elle a comme avantage par rapport à une technique peut-être plus traditionnelle, plus classique?
Déjà, à part la partie esthétique, donc on corrige la déformation d'une part, puis en plus il n'y a aucune cicatrice par la suite. C'est difficile de prouver à quelqu'un qu'on a été opéré s'il n'a pas vu le pied avant. Ben, l'autre avantage, c'est que on ne laisse pas de nerfs, on ne laisse pas de vaisseaux, la cicatrisation n'est pas compromise puisqu'il n'y en a pas. C'est une fracture qu'on crée qui va consolider dans les limites normales pour une personne, relativement selon la personne. Mais elle a surtout un avantage fonctionnel, c'est qu'on peut permettre aux gens de marcher tout de suite. Donc tout de suite, les gens peuvent marcher dessus. Ils n'ont pas de canne, ils n'ont pas de plâtre, ils n'ont pas de chaussures vraiment très spéciales. C'est des chaussures avec une semelle à bascule, tout simplement. Et ils peuvent marcher selon douleur autant qu'ils veulent. On n'a pas de restriction. Et la plupart des gens rentrent à la maison le même jour. Donc ça, c'est un gros avantage qui rend cette technique, disons, de plus en plus répandue avec une demande plus accrue de la part des patients qui étaient réticents avant à cause de la difficulté des autres techniques.
C'était donc une opération avec la technique percutanée du hallux valgus par Mouchine Eliazid, chirurgien orthopédiste et traumatologue à la clinique de Genolier.
Oui, vous précisez encore que cette intervention est très rapide, une dizaine de minutes pour un hallux valgus modéré, et une opération que le docteur Mouchine pratique approximativement plus de 700 fois par année.
700 fois par année, Xavier Crevoisier, il y a une demande plus importante pour cette technique percutanée que pour l'autre ou pas?
Oui, alors il faut reconnaître qu'elle a été extrêmement promue toutes ces dernières années. Il faut reconnaître que c'est un aspect marketing aussi très intéressant, naturellement. Et bien des patientes pourront être séduites par l'idée d'avoir une très petite cicatrice, bien des jeunes patientes. Et puis paradoxalement, c'est justement ces patientes-là qui auront besoin de la chirurgie la plus précise possible.
Quelles sont les complications possibles, finalement? Est-ce qu'il y en a, ça, ou ça a l'air...
Avec la chirurgie percutanée?
Ouais.
Alors, globalement, les complications, elles sont à peu près les mêmes qu'avec la chirurgie ouverte. Les principales, c'est la récidive ou l'hypercorrection. Ça peut être aussi la non-consolidation. Et puis, les lésions neurologiques ou les lésions de vaisseaux, elles sont aussi possibles avec la technique percutanée, parce qu'on ne voit pas toujours exactement ce qu'on fait si on n'a pas suffisamment l'habitude, comme le docteur Mouchine qui, lui, en pratique énormément.
Récidive, est-ce qu'il y a beaucoup de récidives?
On compte environ 5% de récidives dans la littérature.
Et
c'est pas énorme,
mais
ça fait ajouter aux autres complications un risque de complications de proche de 10%.
On se lance dans la chirurgie, on le disait, si on a des douleurs, mais la chirurgie elle-même, qu'est-ce qui se passe après cette opération? Est-ce que les suites sont douloureuses, plus ou moins que ce, par exemple si c'est une chirurgie ouverte ou qu'une chirurgie percutanée?
Les suites sont à peu près les mêmes. Il y a une seule étude récente qui a montré que la douleur était un peu moindre après la chirurgie percutanée en post-opératoire. Mais il faut bien savoir que la gestion de la douleur, c'est pas seulement la technique chirurgicale, mais c'est aussi la technique d'anesthésie. Et puis aujourd'hui, avec les techniques d'anesthésie modernes, en général, les patients passent une période post-opératoire bien plus confortable qu'autrefois.
C'est fait comment, sous péridurale ou anesthésie locale ou
De plus en plus maintenant, avec ces techniques anesthésiques modernes, on les fait en ce qu'on appelle en bloc périphérique. Ça veut dire finalement qu'on n'endort que le pied.
Ah,
c'est aussi pour ça que les patients peuvent soit rentrer le jour même à la maison. Et ça, c'est valable autant pour la chirurgie ouverte que pour la chirurgie percutanée.
Ouais, mais dans ce cas-là, ils entendent tout.
Ils entendent tout, c'est tout à fait vrai. Mais il y a différentes manières de faire. On peut leur faire écouter de la belle musique.
Tout à l'heure, quand on entendait le son, on était tous là.
Pour cette opération-là, les patients étaient endormis complètement.
Ah, complètement. Ouais.
Un mot peut-être sur la convalescence. Est-ce qu'elle est plus courte, justement, selon le type de chirurgie utilisée et de quel ordre?
Alors, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Donc, on a parlé ce matin que de la valgus léger à modéré, qui peut se faire par les deux techniques. Donc, la convalescence, elle est exactement la même, que ce soit ouvert ou que ce soit fermé. Avec la chirurgie ouverte, les patients, ils peuvent aussi charger tout de suite, le soir même ou bien le lendemain, ou si dans une chaussure post-opératoire qui est en général laissée au patient pendant 6 semaines, associée à un pansement qu'on appelle un pansement directeur et puis qu'on va rechanger plus ou moins toutes les semaines pour garantir en fait la fixation et puis la stabiliser.
Et durant ces 6 semaines, de la physio ou pas nécessairement?
Non, durant ces 6 semaines, on cherche plutôt la stabilité que la mobilité, puis on ne va pas faire de physiothérapie. La physiothérapie, elle est très très rare après la chirurgie de la lux valgus. Elle n'intervient que si on a des cas de raideur très importants ou des cas de douleur très importants qui persistent avec le temps. Souvent, la marche suffit comme physiothérapie.
La marche, d'accord, suffit comme physiothérapie, mais est-ce qu'il reste après une faiblesse? J'entends par là, quand c'est que je peux recommencer à courir tous les matins?
Oui, ça c'est effectivement ce que les gens veulent savoir. Donc, en général, on compte pour un retour au sport contraignant pour la première articulation métatarsophalangienne à peu près 3 mois. Mais que ce soit une technique ou l'autre. Mais il y a des sports qui peuvent être pratiqués plus rapidement, comme la natation, le fitness ou le vélo, et qui mettent moins à contribution cette articulation.
Et au bout de combien de temps Sophie Proust pourra remettre ses hauts talons?
Alors, en général, au bout de 3 mois, ça va déjà être possible, dans les meilleurs cas, on va dire.
Je suis rassurée.
Et puis, même si vous avez une raideur transitoire, à terme, vous pourrez les remettre.
Alors peut-être 2 questions pour terminer, Xavier Croisier. L'offre, on l'a dit, hein, pour ce type de chirurgie, la chirurgie percutanée est très importante. Que dit aujourd'hui la littérature scientifique à son sujet? Est-ce qu'elle est, d'un point de vue scientifique, supérieure à la chirurgie ouverte?
Non, les études qui ont parlé de la chirurgie percutanée sont presque toutes, à l'exception d'une, faites par les promoteurs de la technique. Donc ça crée un biais qui n'est pas négligeable. Une seule étude récente de cette année, en fait, qui est de niveau 2, donc c'est un niveau suffisant pour établir une évidence, a montré l'absence de différence significative à l'exception du temps chirurgical, qui est plus court, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, et des douleurs post-opératoires qui sont moindres, qui sont légèrement moindres.
Alors finalement, comment se fait le choix? Une patiente vient vous voir, vous par exemple, ou va voir Mouchine Eliazid qu'on a entendu tout à l'heure. Comment se fait le choix entre les deux techniques?
Le choix entre les deux techniques, il se fait avant tout sur la base de l'école du chirurgien. Vous avez entendu 700 interventions par année. Le docteur Eliazid Mouchine, il est très très habile de ses mains, il connaît bien cette technique. Il fera cette technique beaucoup mieux que moi, qui pratique la chirurgie ouverte de manière beaucoup plus régulière. Donc c'est très important en fait que le chirurgien pratique la technique à laquelle il est habitué pour pouvoir offrir, si on veut, la meilleure garantie à son patient.
Vous l'avez dit, l'expérience du chirurgien dans sa technique, elle est très importante. C'est quelque chose qu'on peut vérifier avant de choisir un chirurgien? Parce qu'on pense pas nécessairement, notamment lorsqu'on va dans un hôpital public, à demander son CV au chirurgien qui va vous opérer.
Oui, vous avez raison. C'est très très difficile pour le patient et c'est difficile de s'y retrouver parce que on a beaucoup de publications internet à propos de la lux valgus et puis il est souvent difficile de distinguer la frontière entre ce qui est de l'information objective et puis de la promotion d'une structure médicale. Donc je pense que pour le patient, il y a plusieurs manières de faire, mais celle qui sort du lot, c'est certainement d'avoir un contact étroit avec son médecin traitant. Son médecin traitant, il sait avec quel chirurgien il a l'habitude de travailler, il sait la fréquence avec laquelle le chirurgien pratique cette intervention, mais il connaît aussi les chirurgiens qui suivent leurs patients en cas de complications et qui sont capables de les accompagner si ça se passe mal. Ça, c'est très important.
Peut-être une toute dernière question, en fait, qui nous a été soufflée par notre réalisateur, Jean-Claude Gailly. Est-ce qu'il vaut parfois mieux vivre avec, si c'est supportable, plutôt que d'aller vers une chirurgie?
Oui, tant que c'est supportable et tant que c'est fonctionnel, il faut vivre avec. Il ne faut pas le corriger. Parce que tant que c'est votre pied, et c'est un chirurgien qui le dit, ouais. Tant que c'est votre pied, c'est votre pied. Une fois qu'on l'a touché, nous, ça devient aussi un petit peu notre pied, donc on l'a quand même un peu transformé. Donc il faut qu'on parte d'un niveau de symptomatologie suffisant pour justifier la chirurgie. Si on n'atteint pas ce niveau de symptomatologie suffisant, eh ben il ne faut pas la pratiquer.
Mais ça vaut aussi mieux pour les coûts de la santé, hein, quand même. Ouais. Merci beaucoup, Xavier Cremoisier. Je rappelle que vous êtes médecin-chef à l'hôpital orthopédique, ici à Lausanne, et responsable du centre du pied du CHUV. Vous avez répondu à l'invitation de Stéphane Delettreau. Et à 10h43, je vous souhaite d'abord une très très bonne journée. Merci.
Merci bien.
CQFD sur la première.